La marche du monde, Valérie Nivelon.
La marche du monde en reportage à Cherbourg sur les traces de celles et de ceux qui ont embarqué le 10 avril 1912, ici à Cherbourg, au port de Cherbourg, à bord du Titanic.
Le 15 avril 1912, le Titanic, le paquebot le plus grand et le plus luxueux alors jamais construit, sombrait au large de Terre-Neuve. 5 jours plus tôt, le Titanic effectuait sa seule escale sur le continent à Cherbourg.
Et c'est ici, à Cherbourg, que la Cité de la Mer inaugure son nouvel espace consacré au Titanic et à sa dernière escale dans le port de Cherbourg. Ce nouvel espace d'exposition et mise en scène dans l'ancienne gare maritime transatlantique. C'est une gare considérée d'ailleurs comme l'un des plus beaux exemples d'architecture art déco en Europe. Et par ici, par Cherbourg, des millions d'Européens ont transité au début du XXe siècle, car pour eux, embarquer sur le Titanic signifiait tenter sa chance en Amérique. Un rêve stoppé net par le naufrage d'un paquebot pourtant réputé pour sa sécurité.
Je ne puis imaginer qu'il puisse arriver malheur à ce navire.
C'était si surprenant que j'ai porté intérêt à quelques hommes des ponts inférieurs.
Je n'oublierai jamais la majestueuse entrée du Titanic dans la rade.
Au moment de la collision, c'était comme si le navire avait été saisi par la main d'un géant.
L'exposition Titanic permet aussi de faire revivre l'histoire des grandes migrations européennes vers le Nouveau Monde. Quand Cherbourg, porte des Amériques, voyait transiter des millions d'émigrants, à l'époque du plus grand exode de l'histoire de l'humanité. Titanic, retour à Cherbourg, embarquement.
Virginie Beaufrère, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes commissaire de l'exposition Titanic et émigration à la Cité de la Mer de Cherbourg. Et vous avez voulu replacer cette histoire de migrants, cette histoire du naufrage du Titanic dans un cadre plus large, qui est l'histoire des migrants européens vers cette terre promise, en quelque sorte, que constituent les États-Unis d'Amérique au tout début du XXe siècle.
Oui, puisque Cherbourg est un port d'escale depuis la fin du 19e siècle. Et donc, on retrace au travers de ce parcours l'histoire de ces migrants qui ont quitté leur pays pour vivre une autre vie au-delà de l'Atlantique, en Amérique du Nord, mais aussi en Amérique du Sud.
Donc, au fond, le premier enjeu pour ces migrants européens, c'est déjà d'atteindre les côtes françaises. D'où viennent-ils ?
Alors, ils viennent d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, ils viennent d'Allemagne. Ils viennent d'Italie, donc tous ces gens rejoignent les ports d'embarquement qui ne sont pas des ports qui sont forcément proches de leur lieu d'origine. Donc ils traversent l'Europe en train, par exemple. Donc quand ils arrivent à Cherbourg, ils ont déjà plusieurs kilomètres derrière eux. Le voyage débute dès leur pays d'origine. Et ils arrivent à Cherbourg où ils sont accueillis à partir de 1922 à l'hôtel Atlantique qui est, même pour les Américains de l'époque, les commissaires d'Ellis Island, un lieu fantastique puisqu'ils sont chaleureusement accueillis par les gens de Cherbourg et dans des conditions sanitaires et des conditions d'hébergement qu'ils n'ont jamais connues pour la plupart jusqu'alors.
Alors ils sont plusieurs dizaines de milliers, il faut le préciser, depuis la fin du 19e jusqu'en gros la Seconde Guerre mondiale, à transiter par Cherbourg. Comment cette ville est-elle transformée par l'arrivée justement de ces migrants ? Vous avez signalé l'existence, et d'ailleurs ce bâtiment existe toujours, on peut le voir ici en ville, cet hôtel Atlantique. Comment il faut s'imaginer cette vie ici à Cherbourg avec ces migrants qui arrivent de l'Europe entière ? Comment ça s'organise ?
Justement, ça s'organise petit à petit en fonction des flux des migrants qui grossissent d'année en année. Donc, je vous parlais en effet de l'hôtel Atlantique, mais qui a vu jour qu'en 1922. Donc, on sait que dès 1869, on a 3 compagnies maritimes étrangères qui ont décidé d'utiliser le port de Cherbourg comme port d'escale. On avait, dès le début du XXe siècle, 540 escales annuelles, donc ce qui représentait à peu près 50 000 passagers transatlantiques. Donc, à l'époque, on n'avait pas en effet cet hôtel d'immigration. Donc les compagnies se sont organisées pour accueillir ces migrants qui arrivaient dans une agglomération. Cherbourg, c'est une petite ville qui n'avait pas forcément les infrastructures. Ces passagers qui attendaient parfois plusieurs jours, plusieurs mois avant d'embarquer pour les États-Unis ou l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Donc il fallait bien les héberger, il fallait bien les nourrir, il fallait bien vérifier leur état sanitaire puisque c'était l'une des conditions d'entrée aux États-Unis. On sait combien Ellis Island, les conditions d'intégration étaient drastiques d'un point de vue sanitaire.
Quel était l'intérêt justement pour les compagnies maritimes de fournir tous ces services aux migrants? Cela risquait de leur coûter un peu d'argent s'ils laissaient passer les migrants sans avoir vérifié un certain nombre de conditions sanitaires?
Complètement, puisque les migrants qui étaient refoulés à Ellis Island étaient rapatriés dans leur pays d'origine aux frais des compagnies maritimes qui les avaient transportés jusque-là.
J'ai 12 ans, je m'appelle Elias Nicolas Yared, je suis Libanais. Je viens du village de Akkor, dans le nord de mon pays. Avant de monter dans le train vers Cherbourg, on nous a fait passer l'inspection médicale. Je tenais la main de mon père, nous étions séparés des femmes. Je suis passée en premier, puis ça a été terrible. Le médecin faisait souffrir mon père avec des instruments en fer dans les yeux. Il avait une infection, il ne pouvait pas embarquer. Jamila et moi devions faire le voyage, seuls. Il nous a promis de venir dès qu'il serait soigné. Je ne voulais pas le laisser là, mais Jamila m'a pris par la main.
Je m'appelle Olaus Abelset. Mes parents avaient une ferme à Orskog, un petit village de pêcheurs en Norvège. J'ai 25 ans. Je travaille dur. Tout est à faire, mais l'avenir est pour nous en Amérique.
J'ai vu le Titanic dans la baie. Il était immense. Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai suivi Jamila parmi la foule, sans comprendre où nous allions. Je ne voulais pas rentrer dans la cabine, mais rester sur le pont pour assister au départ, voir la fumée s'échapper des immenses cheminées.
On entendait toutes les langues. Il y avait des jeunes, des vieux.
Alors on imagine effectivement cette frénésie à Cherbourg en attendant le grand départ pour l'Amérique du Nord, mais aussi pour l'Amérique du Sud. Vous l'avez précisé, Virginie Beaufrère. Donc cela veut dire aussi que c'est une babel de langues sur le port de Cherbourg. Il y a des interprètes certainement qui sont là aussi pour rendre service aux migrants, pour les aider à remplir leurs papiers, à traduire entre eux et les médecins. On les imagine comment ces traducteurs? Comment on les reconnaît?
Ils pouvaient sillonner en effet l'hôtel Atlantique ou les hôtels qui ont vu le jour avant l'hôtel Atlantique à Cherbourg, donc avec ces petits drapeaux qui les représentaient et qui permettaient d'identifier les langues parlées par eux. Il faut savoir aussi que l'agglomération a publié des petits livrets à destination des migrants dans leur langue d'origine. On avait également à l'hôtel Atlantique des rabbins qui permettaient de pouvoir avoir l'alimentation cachère, enfin de vérifier l'alimentation des juifs qui passaient par Cherbourg. Il y en avait beaucoup. Et donc de leur assurer le confort mais aussi le respect de leur religion dans leur transition ici à Cherbourg pour quelques jours ou pour quelques mois.
When they built the great Titanic, they said what could they do? They said they'd build a ship that water would not go through. But God with his mighty hand showed the world it could not stand. It was sad when that great ship went down.
Virginie Beaufrère, que fuient-ils, ces migrants? Ils rêvent d'Amérique, certes, ils rêvent d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie. Mais que fuient-ils? Parce qu'ils sont très différents. Certains viennent même du bout de l'Europe, des pays baltes, de Riga, lorsqu'on regarde un peu leur trajectoire.
Mmh. On fuit les persécutions politiques, on fuit les persécutions religieuses, on fuit la famine, on fuit la pauvreté. Donc oui, tout ça est un mélange, en effet, de différentes causes. Mais pour cet Eldorado, évidemment, cette image que les migrants ont de l'Amérique, qui est parfois d'ailleurs déformées, mais des images qui leur sont vendues aussi par ces agents recruteurs. Parce que pourquoi embarquer à Cherbourg alors qu'on habite si loin de Cherbourg? Il faut savoir que les migrants, finalement, les passagers de troisième classe, sont une manne financière exceptionnelle, fantastique pour les compagnies maritimes, qui déploient des efforts considérables pour aller recruter ces passagers et pour les ramener dans les ports où ils ont établi leur port d'escale.
Pour certains, le voyage s'arrêtera ici à Cherbourg. Est-ce que dans l'histoire même de la ville, il y a des traces justement de cette migration interrompue ?
Quelques Russes, des Italiens qui, à cause des quotas imposés par la législation américaine, en effet, n'ont jamais traversé l'Atlantique, sont arrivés jusqu'à Cherbourg et coincés par les quotas, ont décidé finalement de s'installer à Cherbourg. Donc on retrouve parmi les archives des photos de ces petits cabanons, des gens qui s'organisent pour créer des petits commerces et apporter leur savoir-faire à la population locale pour s'intégrer en effet à la ville de Cherbourg.
La marche du monde, donc à Cherbourg, à la Cité de la Mer, en compagnie de Virginie Beaufrère, commissaire de l'exposition Titanic et Émigration. Nous sommes dans la salle des bagages. Nous sommes avec les migrants qui s'apprêtent à faire le grand voyage, la grande traversée de l'Atlantique. Et nous ouvrons avec vous leur malle pour essayer de mieux comprendre qui ils sont. Alors, quels sont les objets que l'on trouve justement à l'intérieur des bagages de ces migrants? Quels sont ceux qui ont retenu votre intérêt?
On imagine en effet quand on part, quand on quitte son pays et qu'on a l'objectif de ne pas y revenir, qu'est-ce qu'on emmène avec soi? Parce qu'on n'a pas le loisir d'emmener toute sa maison, donc il faut faire des choix. Donc il y a des choix religieux, en effet on emmène des objets de culte puisque c'est important dans la vie quotidienne de ces migrants.
Alors là on trouve des bibles, on trouve aussi
les Torahs, on trouve voilà, de là on est vraiment des choses très différentes en fonction des lieux d'origine.
Il y a beaucoup de juifs aussi qui fuient les pogroms, notamment de Pologne.
Et puis on embarque évidemment le nécessaire, je dirais, pour établir son foyer au-delà de l'Atlantique. Donc des draps brodés et ses vêtements, des vêtements d'enfants, les enfants qu'on a déjà ou qu'on espère avoir de l'autre côté de l'Atlantique, des courriers intimes, des choses qui sont très précieuses, des papiers administratifs, des certificats de mariage qui serviront à prouver son identité, à pouvoir se construire une nouvelle vie administrative là-bas. Et puis on emmène aussi, puisqu'il faut savoir que lors des premières traversées transatlantiques, le capitaine n'est pas obligé de nourrir les passagers qui embarquent. Donc il faut emmener avec soi la nourriture qui servira à toute la traversée, ce qui n'est pas forcément évident. Donc des choses qui se conservent et puis des choses en effet qui sont typiques de la région dont on vient. Donc on amène son pain, du pain azim, ou on amène des dattes, on amène ce genre de choses. Donc on découvre comment, alors qu'ils ne mangeaient pas forcément à leur faim dans leur vie de tous les jours et aussi dans leur trajet depuis le Liban ou depuis l'Irlande, qu'à bord du Titanic, ils ont ventre plein tous les jours.
Je me rappellerai toujours notre premier repas. J'en croyais pas mes yeux. Kate poussait des cris d'admiration. Tant de beauté et de luxe, j'avais jamais vu ça. Une salle immense avec des lumières partout, des nappes et des serviettes en lin, des couverts argentés. Et puis on a mangé de la viande, des légumes, des oranges. J'avais jamais mangé une orange. Nous ne savions même pas découper leur peau. Quel fou rire. Il y avait du jus partout sur nos vêtements. Nous tentions d'avoir bonne contenance, d'être des dames. Nous qui avions l'habitude de dormir le ventre vide, c'était déjà le début de la fête. Et cela n'a fait que continuer. Quel bonheur.
Virginie Beaufrère, ici à Cherbourg, à l'occasion de cette exposition Titanic et Émigration, vous avez commencé par essayer de reconstituer la liste la plus exacte des passagers qui se sont donc embarqués à bord du Titanic le 10 avril 1912. Avez-vous réussi à établir le nombre de passagers et pouvez-vous nous dire de quelles origines sont ces passagers et quelles ont été vos surprises peut-être ?
C'est vrai que ça a été un très très gros travail donc mené depuis plusieurs années par toute l'équipe de centre de ressources de la Cité de la Mer qui a permis justement de recouper toutes les sources puisqu'évidemment on n'aura jamais la liste exacte des passagers qui ont embarqué à Cherbourg ni la liste exacte de la totalité des passagers et de l'équipage qui est embarqué sur le Titanic en 1912. Donc recroiser ces informations avec les historiens qui ont travaillé sur ces listes avec les différentes sources anglaises, françaises, américaines. et puis travailler avec des généalogistes. C'est le cas, on a M. Dufieff, par exemple, qui est un Canet, qui fait partie de l'Association française du Titanic, qui nous a aidés aussi à remonter des pistes de passagers, à en valider certains, en invalider d'autres, puisqu'on a eu certains affabulateurs après la catastrophe qui ont dit qu'ils avaient embarqué à bord du Titanic, tellement l'histoire était fantastique. Donc il a fallu vérifier tous ces éléments-là, et nous en sommes arrivés au chiffre de 281 personnes montées à bord du Titanic à Cherbourg le 10 avril 1912.
Et parmi elles, donc, différentes nationalités d'origine, évidemment.
Oui, alors on a une répartition un peu particulière, évidemment une répartition par classe, puisqu'on avait trois classes de passagers à bord du Titanic.
La première classe, la seconde classe et la troisième, où majoritairement sont ces migrants. Hein.
Oui, tout à fait. Et donc parmi ces migrants, on a 102 passagers sur les 281 embarqués à Cherbourg. Et on remarque assez, on s'étonne, que la grosse majorité de ces migrants proviennent du Liban ou de Syrie.
Alors pourquoi ?
Comme je vous le disais tout à l'heure, on n'explique pas forcément tout. Et parmi les pays sillonnés par ces agents recruteurs figure le Liban, en effet. Les Libanais qui ont embarqué à Cherbourg sur le Titanic ont transité par le port de Marseille, dont auraient très bien pu aussi embarquer à Marseille ou dans un autre port de Méditerranée pour rejoindre l'Amérique. C'est Cherbourg qui a été choisi par hasard aussi, parce que en fonction des paquebots qui partaient, des quotas imposés par les pays récepteurs, on a en effet des opportunités qui s'ouvrent différentes aux immigrants, qui s'ouvrent aussi en fonction du tarif proposé par les compagnies. Évidemment, ces gens déjà dépensé énormément d'argent pour faire le voyage jusqu'à leur port d'embarquement. Ils doivent se nourrir, ils doivent se loger. On ne retrouve pas forcément des hôtels comme à Cherbourg dans tous les pays, dans toutes les villes qu'ils traversent. Donc on a quand même un budget assez important de transit jusqu'au port d'embarquement. Donc tout ça fait en effet qu'on choisit comme on choisit aujourd'hui, mais de façon beaucoup plus simple, son port de départ ou sa ville, son aéroport de départ en fonction des destinations. C'est également le cas à cette époque-là, puisque en fonction de sa destination, forcément, on choisit son port de départ.
Je crois que nous avançons à plus de 21 nœuds.
Oui, à 22 nœuds.
À cette allure, nous arriverons dans à peine 4 jours.
Buvons à la puissance du Titanic.
Permettez-moi de m'en retirer.
Mais il est bientôt, commandant. La soirée ne fait que commencer.
Docteur, je ne souhaite pas gâcher votre plaisir. Nous nous retrouverons demain. Nous entrons dans une zone très froide. Vous
savez. Il avait l'air soucieux.
Ouvrons les fenêtres et regardons. Nous traversons peut-être un paysage de glace.
Iceberg, bloc et banc de glace entre le 49e degré de latitude nord et le 51e degré de longitude ouest. Prenez note, mon cher Smith, et permettez-moi de le conserver.
Ma sœur avait le mal de mer, elle ne dormait pas très bien la nuit. Et moi, j'ai pensé que c'était le plus grand terrain de jeu que je n'ai jamais vu.
Pour occuper le temps, j'avais décidé de trouver le chemin des premières classes. C'était pas simple. Finalement, au hasard d'une promenade, on s'est retrouvé dans leur salle de restaurant. Oh, quel luxe! Ça, non. Pour sûr, c'était pas là notre place. On est partis en riant. Ils étaient si convenables. Ils avaient l'air de s'ennuyer.
Les soirées étaient si joyeuses. Des jeunes gens se sont mis à jouer de la musique irlandaise et mon cœur a chaviré. Nous avons dansé. Ma petite sœur était un peu timide et voulait aller se coucher. J'ai croisé un cavalier, John. Il venait de mon village et c'était un ami des voisins. Puis soudain, un rat est apparu et certains se sont mis à lui courir après, nous criant d'amusement. Nous avons chanté et ri. Je me suis dit que cette nuit était la plus belle de ma vie.
Le soir après dîner, Jamila s'est rendue dans la salle de bal. Il y avait une belle ambiance. Je suis venue et j'ai entendu pour la première fois des violons irlandais. Puis je me suis couchée tôt. Je rêvais à une farandole joyeuse.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Embarquement immédiat à bord du Titanic, nous sommes le 10 avril 1912, ici à Cherbourg, et nous allons, avec ces migrants, voyager en troisième classe, et nous allons découvrir pour quelles raisons ils ont entrepris ce grand voyage. Ils sont en effet 36 millions d'Européens de toutes nationalités. Ils sont Polonais, Baltes, Italiens, Français, Irlandais, Norvégiens. Beaucoup d'entre eux fuient la guerre, la misère, les persécutions, comme par exemple les Juifs d'Europe. Et ils vont tenter leur chance, non pas en Amérique, mais aux Amériques, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Nous les accompagnons dans cette traversée de l'Atlantique à la faveur de l'exposition Titanic et Immigration. En votre compagnie, Virginie Beaufrère, vous êtes la commissaire de cette exposition et nous allons particulièrement nous intéresser à trois passagers embarqués ici à Cherbourg. Est-ce que vous pourriez nous les présenter ?
On a trois personnages, Margaret, 25 ans, une jeune Irlandaise, Elias, qui vient du Liban, qui a 12 ans, et Olaus, un jeune Norvégien de 25 ans.
Je me nomme Margaret Jane Murphy. On m'appelle Mary ou Maggie. J'ai 25 ans, je suis Irlandaise, née dans le village de Drummond.
J'ai 12 ans, je m'appelle Elias Nicolas Yared, je suis Libanais. Je viens du village de Akkor, dans le nord de mon pays.
Je m'appelle Olaus Abelset. Mes parents avaient une ferme à Orskog, un petit village de pêcheurs en Norvège. J'ai 25 ans.
Mon rêve, c'est de partir. Il y a du travail en Amérique. Et surtout, il paraît que les filles sont libres. Lorsque mon père est mort, ma mère est tombée malade. On tenait plus à la maison. Il n'y avait pas de quoi nous nourrir tous. Alors deux de mes frères et une de mes sœurs sont partis en Amérique. Je suis restée seule avec ma jeune sœur Kate et mon grand frère s'est occupé de nous. Il travaille dur, mais il n'a pas de cœur pour nous. L'Amérique, c'est grand. C'est pas comme notre patelin. Moi, je veux pas devenir comme ma mère et souffrir en silence.
Ma mère, à moi, elle est partie avec mes deux autres sœurs et mon frère à Jacksonville, en Floride. Il paraît qu'il y fait beau comme chez nous. Mon père m'a dit qu'il ne voulait pas servir dans l'armée turque. Il a travaillé toute l'année comme meunier pour économiser suffisamment d'argent pour notre départ. Que va-t-il faire là-bas? Je ne sais pas. C'est un peu un secret, mais ma sœur et moi sommes fiers de partir avec lui. C'est à la page, et puis je vais retrouver ma mère.
Je suis venu chercher mes cousins et amis dans mon village natal, à Oshkog. J'ai besoin de bras. Il y a du boulot dans ma ferme du Dakota. Je me suis installé là-bas, ça fait 3 ans déjà. Je travaille dur. Tout est à faire, mais l'avenir est pour nous en Amérique.
Virginie Beaufrère, qu'est-ce qui vous a particulièrement touchée dans ces trois témoignages que vous avez décidé de nous faire découvrir ici à Cherbourg?
On a ces témoignages grâce au fait que ces trois personnes sont des rescapés du Titanic. Donc il faut savoir que 75% des passagers de troisième classe à bord ont péri le 15 avril 1912 à cause de la répartition géographique à bord du paquebot, puisque les troisièmes classes sont logées dans les tréfonds du paquebot alors que les premières classes sont tout en haut et qu'ils doivent remonter tous les ponts pour accéder au pont des embarcations. Il faut savoir également que l'accès n'est pas facilité puisque des grilles imposées par les quotas américains, les lois sanitaires américaines, séparent les troisièmes classes des secondes et des premières classes. Donc ceci explique qu'on ait en effet 75% de passagers troisième classe qui ont péri ce 15 avril 1912. On a la possibilité de retracer leur histoire depuis leur pays d'origine jusqu'au Carpathia, quand ils sont récupérés par le bateau Carpathia, qui va sauver les 711 rescapés, puisque évidemment ce sont trois personnages de troisième classe qui ont survécu au naufrage.
Et Margaret, Elias et Olaus font donc partie de ces rescapés. Grâce à leurs témoignages, on en sait beaucoup plus sur ces itinéraires de migrants, justement, de la vieille Europe vers la Nouvelle-Amérique.
Oui, puisque Margaret, comme beaucoup d'Irlandais, puisque ce sont les Irlandais qui forment le plus gros contingent.
Ils fuient la famine à l'époque.
Ils fuient la famine, évidemment, irlandaise. On a ce jeune Elias qui, lui, fuit le Liban, la misère du Liban, avec sa famille. Il faut savoir qu'au départ, il devait partir avec son papa et sa sœur. Son papa a été bloqué, puisqu'il a subi un contrôle sanitaire à Marseille. Chose répandue à l'époque, il avait une infection oculaire, donc il a été refoulé. Et il a sa sœur qui était plus âgée, donc Jamila, a tiré son frère, a arraché son frère à son papa, puisqu'ils n'avaient pas le choix. Il fallait qu'ils poursuivent leur périple. Et ils ont abandonné derrière eux leur papa à Marseille, qu'ils ne reverront jamais. Tout ça est très fort dans ces témoignages qui ont été repris par des comédiens, mais on s'est basé sur les témoignages réels de ces passagers embarqués à Cherbourg. On découvre comment alors qu'ils ne mangeaient pas forcément à leur faim. À bord du Titanic, ils ont ventre plein tous les jours. Tout ça est un rêve pour eux. Ce qu'il faut savoir, que le Titanic est le premier paquebot qui s'inquiète vraiment du confort des passagers de troisième classe, ce qui n'était pas le cas du tout à l'époque. On avait l'entrepont où on stockait les gens comme des animaux, ou même pire que des animaux, alors que là, on a des cabines, on a une restauration, on a des loisirs à bord du Titanic.
Avec d'autres enfants, nous avons passé des heures sur le pont. Nous ne parlions pas la même langue, mais nous avions trouvé des lieux d'amusement. Paraît-il qu'il y avait une salle pour les enfants de première. Mais nous, ça ne nous faisait même pas envie.
Nous étions toute une bande d'Irlandais. Nous chantions et rions.
Je me souviens aussi d'un Irlandais qui voulait commencer une nouvelle vie en Amérique. Il disait, les yeux grands ouverts, « Ah, quel grand jour quand nous arriverons à New York. Pense à toute cette foule qui nous accueillera quand nous débarquerons. »
Virginie Beaufrère, au regard de l'histoire, on est dans une période, ce début du XXe siècle, où à la fois il y a ce grand mouvement de migration de l'Europe vers les États-Unis et vers également l'Amérique du Sud, mais il y a aussi cette technologie maritime qui permet de véhiculer un nombre de passagers immense, plusieurs milliers à la fois, et aussi dans des bateaux qui ne sont plus en bois mais en fer, et qui peuvent traverser parfois en 10 jours, parfois moins. On est quand même à un moment où la technologie permet presque de faire du voyage de masse, du transport de masse vers les États-Unis.
C'est grâce à toutes ces technologies et ces inventions particulières, que ce soit sur l'hydrodynamisme des bateaux, sur le développement des moteurs. Enfin, il faut savoir que les chaudières du Titanic sont vraiment exceptionnelles pour l'époque.
Nous sommes dans une technologie de bateaux à vapeur, hein, ça y est.
Oui, complètement. Les premiers transatlantiques sont des bateaux à voile. On a après des bateaux à aube à vapeur. Là, on est sur le complètement vapeur, avec cet esprit où il faut transporter les passagers de plus en plus vite. Il faut aussi se remettre dans le contexte, ce qui n'est pas forcément évident pour les jeunes générations aujourd'hui, c'est que le bateau est le seul moyen de passer d'un continent à l'autre, de faire cette transatlantique. Que les transatlantiques, leur but d'origine était de transporter le courrier. C'est bien plus tard qu'elles se sont mues en transport de passagers et qu'avec évidemment toute cette migration qui s'est développée, le transport des passagers a explosé et est devenu, comme je vous le disais tout à l'heure, une manne financière importante. Donc il fallait aller plus vite pour gagner de plus en plus d'argent.
Un cigare, monsieur l'architecte. Portons un toast à votre fabuleux navire, cher monsieur Ismay. Comment vous féliciter de la grandeur et de la puissance d'un tel ouvrage? C'est un honneur de partager avec vous la gloire de cette première traversée.
Au progrès et à la rencontre entre le vieux et le nouveau monde, monsieur Gracie.
Monsieur Andrews, parlez-nous de votre conception révolutionnaire.
Thomas, dites-leur simplement, le Titanic est une prouesse.
Certes, monsieur Ismay. J'ai l'honneur d'avoir conçu un système novateur de sas entre chaque section sous la coque. S'il arrivait un choc quelconque, l'eau serait retenue et le bateau continuerait sa course, imperturbable et pratiquement insubmersible.
Messieurs, levons nos verres au Titanic, l'insubmersible. God himself could not sink this ship.
Un système novateur, messieurs, mais tout n'est pas parfait.
Et quel confort.
Virginie Beaufrère, donc nous sommes en 1912, donc on est loin des premiers essais où les humains étaient un peu comme du fret parqué au fond de la cale. Là, on est dans un confort, même en troisième classe. Pour qu'on ait un peu une idée du gigantisme du Titanic, en termes de chiffres, qu'est-ce que ça donne ?
Donc c'est un bateau qui faisait 269 mètres de long, qui pouvait accueillir plus de 3000 passagers, donc ce qui n'était pas le cas lors du voyage inaugural. On était à un peu plus de 2200 passagers, mais avec 900 personnes d'équipage pour s'occuper de tout ce monde, entre évidemment tous les officiers, les graisseurs, les soutiers qui faisaient tourner toutes les machines.
Les cuistots, le chef était français, voilà. Le restaurant s'appelait
À la carte.
À la carte, s'il vous plaît. L'orchestre aussi.
Oui, bien sûr.
Oui, il y avait un orchestre.
Il y avait 8 musiciens à bord qui se répartissaient en quintette et en trio et qui jouaient en première et en seconde classe et qui se sont rejoints évidemment cette fameuse nuit du 15 avril pour jouer tous ensemble sur le pont du Titanic.
Jusqu'à la fin, oui. Du naufrage. Un violoncelliste français.
Oui, Roger Bricou qui a été réhabilité finalement assez récemment puisqu'il a été considéré comme déserteur lors de la Première Guerre mondiale puisqu'il ne s'était pas présenté sur la liste. Et donc c'est bien après qu'il a été réhabilité et qu'il était prouvé qu'il était bien à bord du Titanic et qu'il avait péri courageusement à bord. C'était important pour sa famille et important en effet aussi pour les gens de son village, Cosne-sur-Loire, qui l'ont réhabilité il y a quelques années grâce à quelques personnes et à l'Association française du Titanic.
Dans ce navire britannique, on en voit un aperçu d'ailleurs dans le cadre de l'exposition que vous lui consacrez. Il y a aussi évidemment un luxe inouï en termes de mobilier, en termes de vaisselle, en termes de décoration, en termes de literie, en termes d'équipement même. Il y a l'eau chaude et l'eau froide dans les cabines.
Dans toutes les classes, et évidemment encore plus en première classe, on a des suites avec des chambres particulières, des coursives privées, des ponts privés. La caractéristique du Titanic, c'est qu'on a des styles complètement éclectiques. On n'a pas un style particulier comme on pourrait retrouver dans un hôtel, avec un style très défini. On retrouve des styles anglais, des styles italiens, des styles français Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, un mélange assez éclectique en effet de styles.
Et tout ça pour des meubles d'époque.
Des meubles d'époque qui ont été. La White Star Line a vraiment creusé, en effet, s'est entouré d'architectes, des décorateurs très importants pour pouvoir donner à cette première classe un panel intéressant et vraiment important de choix de cabine pour se démarquer de son voisin. Finalement, il fallait briller à l'époque.
Alors, on l'a compris, la troisième classe, c'est la classe des migrants, de ceux qui ont des espoirs fous pour reconstruire, pour construire leur vie en Amérique. Les premières classes, quelles sont leurs motivations? Pourquoi sont-ils là? Surtout à l'occasion de ce voyage inaugural.
Alors les premières classes, ils sont là parce qu'ils sont là pour des raisons commerciales, on va dire.
Il y a des célébrités, des people, comment dire aujourd'hui?
Oui, et à Cherbourg, la plupart des people, donc la jet set de l'époque, a embarqué à Cherbourg en fait, puisque beaucoup étaient en Europe pour des voyages d'affaires ou revenaient de voyages d'agrément. C'est le cas des Astor, par exemple, qui revenait d'un voyage en Égypte. John Jacob Astor voyageait avec sa jeune épouse qui était enceinte, ou de Margaret Brown, cette truculente passagère de première classe bien connue, qui revenait aussi d'un voyage d'Orient et ramenait dans les cales du Titanic tout un tas de pièces égyptiennes qu'elle ramenait chez elle. Des histoires assez particulières qu'on retrouve dans une sorte de bottin mondain, évidemment, puisque chacun des histoires, chacun sa maîtresse. On pense à Monsieur Guggenheim, par exemple, qui revenait de Paris avec sa maîtresse française, Léontine Aubard. Donc on va retrouver toutes ces vies, tous ces parcours.
Une grande comédienne aussi.
Dorothy Gibson, qu'on retrouve également dans l'exposition.
Il y avait aussi un journaliste qui suivait cette épopée à l'intérieur du Titanic.
Oui, Monsieur Steed, qui était aussi l'auteur de différents articles, un peu de science-fiction, on va dire, et aussi d'un ouvrage où il relate un naufrage particulier d'un paquebot transatlantique qui résonnera un peu plus tard assez particulièrement avec l'histoire.
Madeleine, ne prenez pas froid, rentrons.
Vous avez raison d'avoir peur, madame. Connaissez-vous la malédiction de Amen-Ra?
Non, Mr. Sun. Pourtant, nous revenons d'Égypte.
Ah, peut-être avez-vous franchi une zone interdite et sacrée. Les morts se vengent toujours lorsqu'on enfreint leur territoire. Rejoignez-nous à 22h au salon. Je vous en raconterai davantage.
Quel drôle d'individu. Il est effrayant.
Ce n'est qu'un journaliste anglais, un trublion.
On dit pourtant qu'il est un homme de grande valeur. Un prophète.
Rentrons, il fait froid. Je n'ai aucune envie d'entendre ces prophéties apocalyptiques.
Virginie Beaufrère, est-ce que ces différents passagers, donc répartis en première, seconde et troisième classe, les migrants nous intéressant plus particulièrement dans cette marche du monde, consacrée donc à ce grand mouvement de la vieille Europe vers la Nouvelle Amérique, ou les Nouvelles Amériques même, est-ce que au sein du bateau, les premières, deuxième, troisième classe pouvaient se rencontrer?
Alors les premières et les secondes, évidemment. Donc on avait des lieux communs, pas tous, mais notamment un restaurant à la carte ou un café véranda. C'est pas du tout le cas des troisième classe, puisqu'ils étaient séparés des premières et des secondes avec ces grilles ou ces portillons qui étaient imposés par les quotas et par les lois sanitaires américaines.
Donc l'histoire glamour du film moderne, le Titanic, avec Kate Winslet et puis Leonardo DiCaprio, aurait-elle pu exister?
On l'imagine que oui, même si a priori, ces grilles entre troisième et première et seconde classe, normalement, étaient faites pour être étanches, justement, pour éviter ces contaminations. Mais bon,
est-ce qu'elles ont favorisé, justement, le nombre de victimes plus grand dans la troisième classe?
Complètement, puisque à la fois ces grilles les empêchaient de remonter, elles ont été bloquées par une partie de l'équipage, pas par tout l'équipage. Des stewards ont aidé certains passagers de troisième classe à franchir ces grilles. Mais évidemment, il fallait qu'ils remontent des tréfonds du paquebot, puisque comme les classes sociales dans la société, le paquebot est divisé de la même façon, de façon pyramidale, où on retrouve les premières classes tout en haut, donc très très proche du pont des embarcations d'où partaient les canots de sauvetage, les secondes un peu plus bas et les troisièmes tout au fond.
Nous avons été réveillés par un choc, puis un grand bruit. Adolphe m'a demandé ce que c'était, j'en savais rien. J'étais inquiet. J'ai vite enfilé mes vêtements, je suis monté sur le pont. Là, j'ai demandé à deux officiers. Ils semblaient pas concernés. Ils m'ont conseillé de regagner ma cabine. J'étais pas convaincu. Je suis redescendu. J'ai dit à Adolphe de se lever. Je suis allé réveiller Sigurd et Peter.
Devant l'escalier des secondes, un homme d'équipage nous a barré le passage. Heureusement, Jim Farrell, un gars du même comté, est arrivé furieux et a crié « Mon Dieu, laissez passer ces jeunes filles, ouvrez cette porte !» Le steward a obéi sans ouvrir la bouche et nous avons couru jusqu'au pont.
Nous n'avons pas rencontré de difficultés pour atteindre le pont de seconde, mais à partir de là, nous ne pouvions franchir une barrière donnant accès aux premières classes. Un homme nous conseille de rejoindre le pont des embarcations où nous aurons des chances de trouver un canot. Mais il faut escalader une échelle qui part de l'entrepont, remonte sur 5 ou 6 niveaux pour atteindre le pont des embarcations. Le métal était gelé et glissant, mais j'ai réussi à grimper au-dessus du vide.
Par-dessus la clameur des gens qui se posaient des questions est arrivé le terrible cri. Les femmes et les enfants d'abord. Quelqu'un a crié ces mots à maintes reprises.
Les femmes et les enfants d'abord.
Ces mots signifiaient ma propre sécurité, mais aussi la plus grande perte dont j'ai souffert. La vie de mon mari.
Alors, nous aussi, nous avons cherché des témoignages de rescapés du Titanic, notamment à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, et c'est ainsi que nous pouvons vous faire entendre la voix d'une gouvernante, puisque la haute société de l'époque embarque avec son petit personnel. Il s'agit de la gouvernante de Mrs. Stones.
J'ai cru d'abord que c'était un orage et puis j'ai attendu un grand bruit. Nous avons entendu, plutôt vu que nous étions pas mal de monde, et on se demandait qu'est-ce qui nous arrivait. C'est qu'après, naturellement, qu'on s'est rendu compte que le bateau faisait naufrage. Ce bruit m'a réveillé. À ce moment-là, je ne savais pas trop quoi faire, mais la lumière s'est éteinte et puis un matelot est entré en nous disant « nous sombrons ». On nous a donné des vêtements de sauvetage.
Autre témoignage d'archives d'un rescapé du Titanic, celui de Michel Navratil, fils. Au moment du naufrage, il était extrêmement jeune puisqu'il n'avait que 4 ans.
Au milieu de la nuit du naufrage, mon père m'emmena dans ses bras. Son compagnon prit de la même façon mon frère avec lui. Ils nous placèrent, mon frère et moi, dans une chaloupe suspendue au bord du pont du navire. Plusieurs femmes s'y trouvaient déjà assises. À ce moment, mon père me chargea de transmettre à ma mère quelques mots affectueux et il me dit adieu.
Quand je suis arrivée sur le pont, le navire allait sombrer, alors naturellement je me précipitais pour prendre un canot. Il y avait déjà des canots à la mer. C'est un spectacle inoubliable. Hein. Tout le monde pleurait, tout le monde criait, on réclamait les siens naturellement. Hein. J'ai réussi à monter dans un canot avec ma patronne.
«
Virginie Beaufrère, on imagine ces migrants qui arrivent à traverser dans ces grandes embarcations transatlantiques, pour ceux évidemment qui n'étaient pas dans le Titanic. 36 millions de migrants donc, qui ont réussi à traverser l'océan Atlantique. Pour certains, ils n'avaient jamais vu la mer d'ailleurs. Comment faut-il s'imaginer leur découverte de l'Amérique ?
Alors pour ceux qui arrivaient à New York, en effet, on arrive dans la baie de New York, on voit cette statue de la liberté qui trône au milieu de la baie, et on accoste à Manhattan sur ces grands paquebots, mais quand on est passager de troisième classe, on réembarque dans des petits bateaux qui nous emmènent sur l'île Ellis Island, qui se trouve tout près de la statue de la liberté, et où on va subir tous les contrôles sanitaires qu'on a déjà subis maintes et maintes fois lors de son voyage.
On peut se faire envoyer.
On peut se faire envoyer. Alors, il y a une légende qui dit que Ellis Island était très sélective, mais finalement, entre guillemets, seulement 2% des immigrants sont refoulés aux frais des compagnies maritimes. C'est pourquoi aussi ces contrôles sanitaires étaient drastiques avant la traversée. Mais voilà, on subit des tests d'intelligence, on est classé, on est un peu stocké pour certaines périodes à Ellis Island, un peu comme du bétail, où on a des stalles, on va dire, pour trier les gens en fonction de leur état sanitaire et de leur origines. On peut être bloqué à Ellis Island quelques semaines ou quelques mois aussi, dans le meilleur des cas, avec des pathologies qui se soignent si on n'est pas refoulé. Et il faut prouver que de l'autre côté, on a de quoi subvenir à ses besoins. On a une autre famille ou des gens, d'autres immigrants. Parfois, l'homme est passé avant son épouse et sa famille pour s'installer aux États-Unis et commencer à gagner un petit peu d'argent pour pouvoir accueillir sa famille après.
Venir tenter sa chance en Amérique, c'est le projet de millions d'Européens qui tous sont passés par Ellis Island, ce minuscule îlot à quelques centaines de mètres de New York, transformé en centre d'accueil par le gouvernement américain. À la recherche de cette mémoire, le réalisateur Robert Bobert et l'écrivain Georges Perec font un film sur Ellis Island, sorti en 1980.
Ce n'est jamais, je crois, par hasard, que l'on va aujourd'hui visiter Ellis Island. Ceux qui y sont passés n'ont guère eu envie d'y revenir. Leurs enfants ou leurs petits-enfants y retournent pour eux. Ce qui fut pour les uns un lieu d'épreuve et d'incertitude est devenu pour les autres un lieu de leur mémoire, un des lieux autour duquel s'articule la relation qui les unit à leur histoire. Sur le socle de la Statue de la Liberté, on a gravé les vers célèbres d'Emma Lazarus. Donnez-moi ceux qui sont là, ceux qui sont pauvres, vos masses entassées, assoiffées d'air pur, les rebuts misérables de vos terres surpeuplées. Envoyez-les-moi, ces sans-patries ballottées par la tempête. Je lève ma lampe près de la porte d'or.
Virginie Beaufrère, est-ce que réellement, lorsqu'ils arrivent aux États-Unis, ces Européens réalisent leur rêve américain ? Vous êtes allée à Ellis Island au musée pour préparer donc cette exposition Titanic et Émigration. Qu'en est-il de leur rêve américain ?
Les rues sont pas pavées d'or, en effet, malgré tout ce qu'on a pu leur dire avant de partir. Donc, ils se retrouvent confrontés, évidemment, à la vie quotidienne, à gagner son pain quotidien, à travailler de petits métiers, de mille métiers, mille misères, c'est l'expression qu'on utilise, devoir apprendre la constitution américaine, devenir américain, apprendre la langue aussi, et de maîtriser tout ça en quelques semaines, en quelques mois, pour pouvoir s'intégrer, même si on s'installe dans des appartements qu'on appelle les tenements, à Manhattan, qui sont pour la plupart des équipements luxueux pour l'époque ou pour les personnes qui ont quitté la misère de leur pays, mais vivent entassés dans des petits appartements à Manhattan. Donc tout ça est la réalité et on ne vient pas riche du jour au lendemain. On le gagne à la sueur de son front. Les enfants travaillent dur, les femmes également. Tout le monde travaille dur pour gagner son pain et, comme je le disais, cumulent les emplois, travaillent chez eux, font de la couture, vont cirer les choses sur dans les rues et petit à petit essaie en effet de gagner assez d'argent pour monter un petit commerce et pouvoir monter dans l'échelle sociale.
Virginie Beaufrère, c'est toute la constitution de la nation américaine qui est dans cette histoire de migration, dans cette histoire de Titanic, et c'est aussi cette façon dont les États-Unis s'est constitué en groupe religieux, en groupes d'origine ethnique commune, avec des quartiers où se retrouvent plus particulièrement tel ou tel migrant de telle ou telle origine. On le sait, les Irlandais sont dans tel quartier, les Ukrainiens dans un autre, etc. Les Juifs aussi se regroupent. Il y a aussi cette nécessité pour les migrants d'être ensemble.
Oui, d'être ensemble, de retrouver leur culture, mais on n'est pas dans des ghettos. Même si chacun recrée en effet sa culture, s'entoure de personnes venant des mêmes régions d'Europe, on a quand même ce mélange justement qui a permis de créer la société américaine. On ne recrée pas son pays, on ne recrée pas sa culture, on mélange ses cultures. C'est le melting pot américain qu'on appellera plus tard plutôt la salad bowl justement, puisqu'on n'est pas dans cette juxtaposition de cultures, mais dans ce mélange de cultures qui fait la richesse de la culture américaine.
Merci Virginie Beaufrère pour ce voyage en votre compagnie. Je rappelle que vous êtes le commissaire de l'exposition Titanic et Immigration à la Cité de la Mer de Cherbourg. Et puis un grand bravo de la part de Cécile Pompéani qui réalise ce magazine et de moi-même pour la richesse de la bande-son de cette exposition que nous avons voulu faire partager à tous nos auditeurs.
Merci.
When the people on the ship were a long ways from home, with the people all around them didn't know that time had come.
Titanic, un rêve d'Amérique. C'était une édition de la Marche du Monde enregistrée à la Cité de la Mer de Cherbourg à l'occasion des 100 ans du naufrage du Titanic et réalisée par Cécile Pompéani. Venez découvrir les traces de cette histoire dans la ville même de Cherbourg et bien sûr ici dans l'exposition de la Cité de la Mer. Vous trouverez de nombreuses infos sur la page de la Marche du Monde. Écrivez, podcastez, cette émission c'est la vôtre.
It was sad when that great ship went down. There were husbands and wives, little children lost their lives. It was sad when that great ship went down.